Dans ma prédication, j'en parlais même, je le suais dans ma prédication, mais il n'y avait toujours rien. Et quand j'ai lancé l'appel à ceux qui m'écoutaient, les gens se sont approchés parce qu'ils désiraient eux aussi évangéliser, consacrer leur vie à l'œuvre du Seigneur. J'ai répondu à mon propre appel, je suis descendu au milieu de la foule, je me suis mis à genoux devant Dieu et j'ai dit: Dieu, délivre-moi de ça, délivre-moi de cette affaire, parce que ça doit venir de ma chair, ça doit venir de moi. Depuis 5 ans, je suis habité par cette idée de réaliser une structure complètement équipée pour évangéliser, mais je ne vois rien en face de moi. Cela doit venir de mon orgueil. Seigneur, délivre-moi de ça. Je luttais. Et j'étais en larmes, j'étais brisé. Quand je me suis relevé, quelqu'un s'est approché de moi, c'était une sœur. Elle me donne une carte de visite, elle me dit: je connais un chef d'entreprise en France qui est à la tête d'une entreprise de transport, peut-être vend-il un semi-remorque. Pensez donc, j'ai pris la carte de visite, je m'imaginais quelqu'un qui me vend un semi-remorque, comme si j'ai l'argent dans la poche pour acheter un semi-remorque la semaine prochaine. Le pantalon est passé dans la machine à laver avec la carte de visite. Quelques semaines plus tard, je retrouve une carte de visite en état de décomposition avancée, mais il restait encore le numéro du téléphone portable du businessman. Alors j'étais assis dans mon bureau et je dis: enfin, je vais savoir si c'est le fruit de mon orgueil, de ma passion pour l'évangile, ou si ça vient de toi. Alors j'ai composé le numéro de téléphone, j'ai dit à cet homme d'affaires, j'ai dit: écoutez-moi monsieur, je sais que vous êtes un homme très occupé, je ne vais pas vous faire perdre votre temps, mais j'aimerais vous dire ce que je crois être une vision de Dieu, dites-moi ce que vous en pensez. Et je lui délivre le message que j'ai reçu dans cet avion à 10 000 mètres d'altitude. Et il y a un silence au bout du téléphone, et l'homme me dit: écoutez, j'ai reçu la même vision que vous. Je lui dis: alors, il avait 73 semi-remorques. Je lui dis: vous ne pourriez pas me faire un semi-remorque avec un tarif missionnaire, s'il vous plaît. Il me dit: le tarif est fixé. Dieu m'a demandé de donner un de mes véhicules. Et c'est ainsi qu'à Troyes est arrivée cette structure mobile, un Volvo FH16 avec une remorque de 14 mètres. Pendant 13 mois, nous avons travaillé à la transformer, à l'homologuer, à l'équiper avec un générateur intégré de 40 kVA, un plateau scénique de 40 mètres carrés, toute la lumière pour éclairer ce véhicule. Et la grande aventure a commencé. Je passe sur toutes ces années où ça a été vraiment un combat pour démarrer des équipes, pour aller évangéliser. Maintenant, quelques années plus tard, après être passé par pas mal de pays, eh bien, l'été prochain, par la grâce de Dieu, nous allons passer dans 8 pays, si Dieu le permet. Nous emmènerons 120 jeunes en mission. Nous aurons non plus un seul camion qui va sillonner l'Europe, mais nous en avons 4. 4 semi-remorques aujourd'hui qui sont parqués sur une base logistique. Dieu nous a permis cette année, vraiment, il nous a encouragés, il nous a bénis. On a pu acquérir un terrain de 3000 m² constructible avec un hangar de 1200 m² et 350 m² de bureaux à l'intérieur. Et nous sommes en train de transformer les structures mobiles parce que ce qui brûle dans notre cœur, c'est le salut des âmes. Alors, j'ai sillonné le monde, j'ai vu des grandes foules en Amérique centrale, Amérique du Sud, Asie, etc., Afrique, et j'aime. Mes frères et sœurs africains, je vous aime. Et nous vous bénissons, et j'ai entendu ici que cette église bénit l'Afrique. Et je continuerai à aller en Afrique dès que le Seigneur le permettra. Mais l'urgence que Dieu a placée sur mon cœur concerne l'Europe. Parce que des choses vont se produire en Europe. Et il est vraiment urgent que les organisations missionnaires, aujourd'hui, ouvrent les yeux sur l'état spirituel de l'Europe et qu'elles concentrent leurs finances sur l'Europe. Alors toutes nos finances, on les a concentrées aujourd'hui sur cette activité et sur le camion Podium, nous prêchons l'évangile bien sûr. L'été prochain, nous aurons 200 impacts d'évangélisation en plein air. Nous allons, au total de jours cumulés, évangéliser pendant 8 mois non-stop. 8 mois non-stop dans la rue avec nos équipes. Alors priez pour nous parce que prêcher dehors, vous savez, dans les assemblées, les gens sont très sympathiques, ils nous écoutent et ils peuvent être amendables s'ils coupent l'homélie d'un prêtre ou d'un pasteur. Mais dans la rue, les gens vous sifflent, les gens peuvent vous jeter des pierres, les gens peuvent vous interpeller. C'est un autre contexte que la prédication de rue. Et il faut être armé d'une manière spéciale pour faire ce travail. Alors priez pour nous afin que nous soyons protégés par le Seigneur, parce que nous sommes allés jusqu'en Ukraine, nous sommes allés dans des ghettos, et nous avons vu des milliers entendre l'évangile, des centaines sont venus à Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, on en a vu plusieurs centaines se tourner vers le Seigneur. Les églises travaillent avec nous pour assurer le travail de suite. Et l'année dernière, Dieu nous a permis d'implanter de nouvelles églises en Europe. Et pour moi, c'était quelque chose de nouveau que de voir en quelques jours des églises naître et des pasteurs prendre en charge ces nouveaux groupes et démarrer de nouveaux services. Alors, si vous êtes intéressé pour découvrir notre ministère, vous avez les petits dépliants dans l'entrée qui expliquent tout ça. C'est une association cultuelle, missionnaire. Ceux qui soutiennent peuvent défiscaliser. Alors, je n'ai pas de pupitre le dimanche derrière lequel je peux dire « Les offrandes baissent, soutenez-nous ». Non, je n'ai plus de pupitre derrière lequel je puisse le dire. Nous marchons, comme l'on dit, par la foi, par la foi. Un frère m'a dit « Toi, ton pupitre, il est au ciel ». Je dis « Oui, c'est vrai. Je frappe en haut, je dis « Seigneur, c'est ton œuvre. Et tout dépend de toi. Merci pour ta fidélité et merci pour tes provisions. » L'été prochain, nous allons parcourir 60 000 kilomètres avec nos structures mobiles. 60 000 kilomètres. Je crois que le tour de la Terre, c'est pas loin de 40 000. On va faire un peu plus que le tour de la planète avec nos structures pendant 2 mois. Je serai avec mon épouse dans un véhicule. On dort à l'arrière d'un Vito. On vit comme cela. S'il y a des gitans, j'aime les gitans, que Dieu les bénisse. Je suis un peu gitan, je suis un peu itinérant, voilà. Je suis un évangéliste un peu atypique, mais je vais suivre les véhicules, rejoindre les 14 équipes qui seront sur le terrain l'été prochain. Et on est obligé de camper pour rejoindre chaque engin. Et c'est 2 mois sur le terrain. Et au mois de septembre, on aura 10 jours de vacances. Ça nous fera vraiment du bien avant d'attaquer une reprise qui est déjà importante. Alors j'arrête là. Je pourrais vous parler pendant des heures sur ce ministère. Priez pour moi, j'en ai besoin. Amen. Alors j'aimerais ouvrir la Bible avec vous dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, j'ai intitulé mon message « Puissant ressourcement dans la maison de Dieu ». Puissant ressourcement dans la maison de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 17, il est question de Jésus et l'apôtre nous rappelle que Jésus est venu annoncer la paix. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers. Amen. Ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, frères et sœurs, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu, en esprit, amen. Je ne sais pas si vous avez gardé un souvenir impérissable de la maison de votre enfance, mais je ne pourrai jamais oublier la maison dans laquelle j'ai grandi. En effet, c'était une maison hantée. Chez nous, les objets se déplaçaient tout seuls, des esprits frappaient dans les murs, des mains invisibles se posaient sur mon corps la nuit, j'entendais des voix. Ma petite sœur était possédée. Il y avait chez nous des phénomènes de poltergeist. Les objets se déplaçaient tout seuls. Il y avait des apparitions de spectres. C'était la maison de l'horreur, la maison de l'angoisse. On ne peut pas oublier la maison de son enfance. Peut-être que vous vous souvenez des anniversaires à la maison, des moments de fête familiale. Il y a des maisons qui nous marquent. Je n'oublierai jamais la maison dans laquelle j'ai grandi. Je n'oublierai jamais non plus cette maison dans laquelle un jour la gloire du Seigneur s'est manifestée. Quand je suis revenu et que j'ai interrompu la séance de divination dans laquelle ma mère était en train de faire tourner les verres avec une sorcière musulmane, et je suis entré dans cette maison hantée en proclamant « Jésus est vivant, Jésus est ressuscité !» La sorcière s'est levée, pas ma mère, l'autre. Et puis elle a commencé à murmurer des malédictions contre moi. Je me suis tenu après le comptoir dans la salle de divination. J'ai dit, Seigneur, j'avais 10 minutes de conversion. J'ai dit, Seigneur, comment on fait? Faut que tu me dépannes. Comment tu règles des affaires pareilles? Et je me souviens de mon premier pasteur. C'était un homme qui ne craignait pas les démons. Et il avait prié pour moi dans le nom de Jésus, le pasteur Henri Deville. Et il avait été l'instrument de ma délivrance. Et en me tenant après le comptoir, je dis, Seigneur, comment tu règles des affaires comme cela? Comment tu fais? Et je me souviens du pasteur qui avait pris autorité au nom de Jésus. Alors je me suis dressé, j'ai dit, Madame, s'il vous plaît, au nom de Jésus, vous sortez d'ici. Et puis tout à coup, je pense en moi-même, ça ne marche pas. Parce que le pasteur, il avait plus d'énergie. Alors je dis, je vous ai dit, au nom de Jésus, vous sortez de là. Et là, je vois qu'elle fait un pas en arrière, je dis, ça marche. Je dis, au nom de Jésus, vous sortez maintenant. Et mes amis, elle n'est pas sortie, elle est tombée. Et là, les esprits ont commencé à se manifester, elle poussait des hurlements. Quelques instants plus tard, elle s'est relevée. Elle avait les cheveux hirsutes sur la tête. Elle a ramassé ses verres, ses clics et ses claques. Elle est partie dans la rue en courant, et je crois qu'elle court encore aujourd'hui. La puissance de Dieu venait de se manifester par cette proclamation du nom de Jésus. Et après, ma mère, bouleversée, eh bien, a accepté la visite des pasteurs. La parole de Dieu était ouverte et l'évangile est entré dans cette maison du diable. Et cet endroit est devenu un instrument, un lieu de délivrance et de guérison. Et nous avons vu tant d'âmes parce que ma mère avait une importante clientèle et vous pouvez imaginer tous ces clients qui, au fil des mois, continuaient à venir pensant qu'elle exerçait toujours ses activités. Et quand ces gens frappaient à la porte et que ma mère leur disait « C'est pourquoi ?» Ces gens disaient « Eh bien, ça serait pour que vous puissiez m'annoncer mon avenir. » On leur disait « Rentrez, on va vous en parler de votre avenir. » Deutéronome chapitre 18, verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, de magicien, d'enchanteur, personne de ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et on leur a dit, si vous continuez, vous irez en enfer. Mais si vous vous tournez vers Jésus, vous serez délivrés, pardonnés, et Dieu aura pour vous une vie nouvelle. Et c'est ainsi que nous avons commencé notre ministère de témoins de Jésus. Nous avons raconté ce que Jésus a fait dans notre vie. Et je n'oublierai jamais une autre maison, la première église dans laquelle j'ai mis les pieds. Je n'oublierai jamais cette première fois où je suis entré à l'intérieur de l'assemblée, où dès que j'ai mis les pieds à l'intérieur, après avoir reçu ce traité dans la rue qui racontait l'histoire d'un chef de gang, Nicky Cruz, qui s'était converti à Jésus, lorsque je suis entré dans cette assemblée, immédiatement, les esprits qui m'habitaient ont commencé à me secouer. Je ressentais la présence de Jésus qui était là. Et j'ai compris quel était le combat spirituel qui faisait rage dans l'invisible. Et je venais de réaliser en quelques instants que celui qui était là, au milieu de ces gens, était bien plus fort que celui qui m'habitait. Alors j'ai dit, démon, diable, je sais que tu me tiens, mais j'ai trouvé celui qui va te faire sortir de ma vie. Le pasteur a lancé un appel, je me suis avancé, et je n'oublierai jamais cette présence de Jésus, je n'oublierai jamais cette rencontre de puissance, je n'oublierai jamais le message du prédicateur, qui prêchait sur la repentance, sur la conversion, sur l'abandon des idoles, le renoncement à la sorcellerie et à la magie. Je n'oublierai jamais cette première prière, cette première imposition des mains, cette première visitation, cette première révélation du Christ. Je n'oublierai jamais quand Jésus m'a saisi, quand il a pénétré ma vie, quand il m'a purifié, quand il m'a nettoyé, quand il m'a délivré et qu'il m'a rempli de sa gloire. On ne peut pas oublier cela. Le Seigneur m'a changé. Oui, il y a eu un puissant ressourcement dans la maison de Dieu. Premier point, la maison de Dieu, c'est la maison de la présence tangible de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les croyants qui ont vécu des grands moments, puissants moments de visitation ou des rencontres avec Dieu, ont toujours voulu matérialiser, cristalliser ces rencontres par des constructions, des édifications. Ils ont bâti des autels, ils ont bâti des temples. Il en est ainsi de Noé, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Moïse. On se souvient tous du tabernacle de Moïse, on se souvient aussi de la tente de David, on se souvient même de la grandeur du temple de Salomon. Nous avons dans l'Ancien Testament de nombreuses expressions pour nous parler de la maison de Dieu. Dans Esdras, la maison de Dieu ou la maison de l'Éternel. Dans les Chroniques, le sanctuaire. Dans Esdras, à nouveau, le temple de l'Éternel. Dans l'Apocalypse, le tabernacle du Seigneur. Et dans les Psaumes, le palais de sainteté. C'est beau, hein ? Le palais de sainteté. Oui, ce tabernacle, on s'en souvient, celui que devait ériger Moïse, où il rencontrait le Seigneur. Le tabernacle où il y avait cette colonne de nuée, de feu, la Shekinah, un signe visible de la présence de Dieu. Dieu qui désire manifester de manière concrète sa présence là où ceux qu'il désire le rencontrer se rassemblent. Amen. Et puis la Kabod. La gloire de Dieu, c'est un terme, la kabod, la gloire de Dieu, c'est un terme qui est dérivé du mot kabed, qui veut dire ce qui est pesant. En effet, quand la gloire de Dieu est là, quand la main pesante de Dieu descend sur son peuple, quand il y a la présence tangible de Dieu, sa main descend sur nous, nous sommes obligés de nous courber, parce que sa gloire est pesante. Nous nous humilions dans sa présence, nous nous examinons en la présence de Dieu, et nous adorons Dieu en sa présence. Alléluia. Mais j'aimerais vous poser tout simplement une question. En ce qui concerne le temple de Salomon ou la tente de David, à votre avis, quelle fut la maison préférée de Dieu? La tente de David. Littéralement, la hutte branlante. Littéralement, la cabane, l'endroit d'une grande simplicité dans lequel David, l'homme selon le cœur de Dieu, venait rencontrer l'Éternel dans un cœur à cœur. Alléluia. Et d'ailleurs, c'est dans le Nouveau Testament, dans Acte 15, où nous pouvons voir qu'il est fait référence, eh bien, à cette tente. Regardez dans Acte 15. Étrangement, il est question de du développement de l'Église et le Saint-Esprit insère dans ce passage cette mention, cette référence à la tente de David, et ça m'a surpris de voir ici cette simple mention. Dans Acte 15, verset 14, nous avons les apôtres qui sont en train d'évangéliser. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte à son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Donc là, le lien est fait immédiat avec l'évangélisation des nations. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines, je la redresserai afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur. Nous avons ici, ce profil ici, la vision de l'Église, frères et sœurs. Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui ils sont connus de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Alléluia ! Dieu éprouve une certaine nostalgie. Moi, je n'ai aucune nostalgie quant à la maison de mon enfance. Mais je me souviens avec joie ces moments où, dans la présence de Dieu, j'ai vécu des temps de rafraîchissement et des temps de puissant ressourcement. Et nous avons ici, dans la vision apostolique, la vision du développement de l'Église, cette référence à cette cabane de David dans laquelle Dieu avait ce rapport tellement intime avec son serviteur. Et c'est une invitation qui est adressée aux païens, aux gens de tout peuple, de toute langue, de toute tribu, de toute ethnie. Alléluia. Nous avons ici un lien immédiat avec Ésaïe, chapitre 54, versets 2 à 3, où Dieu dit « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, étends tes cordages, affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, et ta postérité envahira des nations. » Oui, Dieu désire cette cabane, Dieu désire cette tente, Dieu désire que son Église, que son peuple, celle qui est l'habitation de Dieu en esprit, s'étende sur le monde et que des multitudes viennent trouver au milieu de l'Église le refuge dont elle a besoin. Amen. Oui, l'Église se développe dans le monde, frères et sœurs, et on peut s'en réjouir. Mais ne tombons pas dans le triomphalisme, il y a encore du travail. Parce que malheureusement, le taux de croissance de l'Église n'égale pas encore le taux de croissance démographique. Et s'il est vrai qu'il y a ici ou là des méga-churches, des grandes églises avec 10 000 personnes, qu'est-ce que c'est lorsqu'on compare ces temples qui réunissent des milliers, quand on les compare eh bien, à la densité des populations de bien des pays qui connaissent une explosion démographique? Il y a urgence. Il faut des légions d'évangélistes. Il faut des légions d'évangélistes qui se lèvent pour proclamer la parole. Mais on se réjouit quand on entend parler de 200 000 personnes par jour qui se tournent vers Jésus en Chine. 200 000 personnes par jour se tournent vers Jésus en Chine. 600 000 personnes se tournent vers Jésus au Brésil chaque année. Mais il y a tellement encore à faire. Et quand on pense au taux de croissance de l'Église en Belgique, en France, en Autriche, des taux qui sont inférieurs à 1% ou 2% de la population, on réalise que eh bien, cette croissance n'est pas la même partout. Elle n'est pas égale partout. Et il nous faut, en tant que peuple de Dieu, eh bien, proposer et offrir à ceux qui viennent eh bien, parmi nous un véritable ressourcement dans la maison de Dieu. Oui, c'est la maison de la présence tangible de Dieu. Deuxième point, c'est la maison de la communion, la maison de Dieu. Amen. C'est le mot d'ordre des Actes des Apôtres. Ils étaient ensemble. Ensemble. Ensemble dans un même lieu. Acte 2, verset 1. Acte 2, 46. Chaque jour assidu au temple. Acte 3, 1, 4, 24, ils élevaient la voix ensemble. Acte 5, 12, ensemble au portique de Salomon. Première église, c'était un portique. Voilà. L'important, c'était la communion. L'important, c'était que le peuple soit réuni. Tout seul, nous sommes fragiles. Je compare souvent le chrétien tout seul à un flocon de neige. Mais mettez-les tous ensemble, ils bloquent la circulation. L'Église est forte lorsqu'elle est unie. Martin Luther King disait « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères et sœurs, ou nous mourrons ensemble comme des idiots. » Vivons ensemble comme des frères et sœurs. Amen. Maison de communion. Troisième point, maison de sainteté. L'Église, c'est une maison de sainteté. Vous connaissez le terme « ecclésia » qui signifie « celle qui a été tirée hors d'eux ». Oui, nous l'avons lu dans Éphésiens 2, 21-22, « En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint. » Saint dans le Seigneur. Saint dans le Seigneur. Tellement de choses ont été dites, ont été prêchées, ont été écrites sur la sainteté. La sainteté, trois choses. C'est un état. Nous sommes saints de par la justification. La justification nous déclare saints, c'est la grâce. Dieu nous voit au travers du sang de Jésus. Et s'il n'y avait pas la grâce, avec cette justification, nous serions foudroyés. Nous ne pourrions pas subsister dans la présence de Dieu. Oui, nous sommes déclarés justes. Et puis la sanctification, c'est une marche. La sainteté, c'est une marche. Puisque la Bible dit « Soyez saints dans toute votre conduite ». Donc Dieu, la justification nous déclare saints et la sanctification nous rend saints. Et puis, j'ajouterai que la sainteté, c'est un design. Parce que Dieu est magnifique en sainteté. C'est beau, la sainteté. C'est beau, cette sainteté que Dieu nous donne. L'Église est appelée hors d'eux. Elle est appelée à faire la différence. Cette sainteté n'est pas faite pour être exposée comme un bijou que l'on place dans une belle vitrine. Trop de chrétiens sont super saints entre eux. Mais la sainteté que Dieu nous a donnée, nous sommes appelés à la préserver, mais aussi à la montrer au monde, pour que le monde ait à cœur et le désir de découvrir le Dieu qui est saint. Je me souviens, il y a quelque temps, nous étions à Genève, et avec un évangéliste, nous sommes allés faire de l'évangélisation de rue dans le quartier des prostituées. Nous sommes allés distribuer les traités et inviter ces dames dans la réunion d'évangélisation. Nous sommes entrés dans un couloir et avec le collègue qui était avec moi, nous nous approchons de trois femmes. Il y avait deux jeunes et une dame bien plus âgée qui était assise sur une chaise. Elles attendaient leurs clients. Alors nous nous approchons de ces dames. Elles nous regardent bizarrement. Elles comprennent très vite que nous ne sommes pas de ces clients-là. Nous venons pour leur parler du Seigneur. Et nous leur disons, mesdames, nous sommes là pour vous dire que Jésus vous aime et que Jésus a un plan pour vous, qu'il désire changer votre vie. Et nous leur exposons l'Évangile. Et la plus âgée se met à pleurer. Et soudainement de sa bouche jaillissent ces paroles. Et elle dit aux deux plus jeunes, « Mais regardez donc ces anges. Ce sont des anges qui viennent parmi nous. » Elles étaient tout à coup conscientes de la sainteté qui était sur nous. Et nous étions là pour faire briller cette sainteté afin qu'elles aient soif de quitter le trottoir de leur péché pour entrer dans la maison de Dieu. La sainteté. Quatrième point, la maison de Dieu, c'est aussi une maison de prière. On peut lire dans Jean chapitre 2, regardez dans votre Bible, un autre point. Rassurez-vous, j'en ai 50. Et quand vous rentrerez chez vous, j'espère que vous ne découvrirez pas un holocauste dans le four. Mais je dois m'arrêter dans quelques minutes. Jean chapitre 2, verset 13. Ne vous inquiétez pas. Jean 2. Verset 13, la Pâque des Juifs était proche, Jésus monta à Jérusalem, il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, les changeurs assis, ayant un fouet, fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables, et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de ma maison de mon père, de la maison de mon père, une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Dans un autre passage, il est question de la maison de prière, une maison de prière. John Wesley, le revivaliste méthodiste, disait toujours « Dieu fait tout par la prière, mais il ne fait rien sans elle. » L'importance de la prière. Je connais aux États-Unis une église qui connaît par la grâce de Dieu une croissance, une belle croissance, une croissance équilibrée, l'église du pasteur Jim Simbala. Une église qui a posé les bases de sa croissance sur la prière et la glorification au Seigneur. C'est une église qui s'est dotée d'une chorale merveilleuse qui était initiée par le Saint-Esprit. Si vous lisez l'histoire de la naissance de cette chorale, vous serez stupéfait. Comment, à partir de quelques chrétiens, une chorale est née. Aujourd'hui, elle compte plus de 3000 personnes aujourd'hui qui répètent ensemble et qui chantent ensemble. Vraiment une chorale merveilleuse qui proclame la gloire du Seigneur et qui a eu l'occasion de chanter dans les parcs de New York et d'amener de nombreux pécheurs à la repentance. Jim Simbala est un homme qui est fondé sur la Bible, c'est un homme qui prie, c'est un homme qui conduit son église dans la prière. Et l'épouse du pasteur qui dirige la chorale explique que parfois, lorsque l'esprit descend sur la chorale, eh bien, il n'y a même pas de répétition. Ils n'ont même pas le temps de répéter. Ils sont tous poussés par le Seigneur à se tenir à genoux devant le maître. Ils sont poussés à prier et à se tenir devant Dieu. Et il y a une telle onction sur cette chorale que dans ce quartier de Brooklyn à New York, eh bien, les drogués, les esclaves de la cocaïne, les prostituées, les marginaux, tous les pécheurs de grand chemin viennent écouter l'évangile, se tournent vers Jésus et leur vie est radicalement transformée. Il y a des transformations radicales au travers du ministère de cette église qui a décidé d'évangéliser en proclamant la gloire du Seigneur et en basant la formation des disciples sur la prière. Martin Luther disait, tout comme le travail d'un tailleur consiste à faire des vêtements, le cordonnier des chaussures, ainsi le travail du chrétien, c'est la prière. Ryle disait, considère les plus éminents serviteurs de Dieu, qu'ils figurent dans la Bible ou pas, ils étaient tous des hommes de prière. Et puis la maison de Dieu, cinquième point, c'est une maison de guérison. Amen. Dans Matthieu 21, nous voyons le Seigneur dans le temple, il manifeste le zèle de l'Éternel, et tout à coup des malades s'approchent de lui. C'est ce que dit la Bible. Des malades s'approchent, des boiteux. Matthieu 21, 12, 14, et il les guérit. La maison de Dieu est une maison de compassion. Elle est ouverte à ceux qui souffrent. Une maison ouverte aux malades. Une maison où l'on impose les mains aux malades. Si nous voulons voir des guérisons, il nous faut ouvrir la maison de Dieu à ceux qui souffrent. Il nous faut imposer les mains aux malades, il nous faut prier pour les malades, il nous faut chasser la maladie. Il nous faut aussi réprimer parfois des esprits d'infirmité, des esprits de maladie lorsque l'esprit nous permet de discerner. Il nous faut aussi maximiser la foi des malades parce qu'elle a besoin, cette foi, d'être édifiée, d'être encouragée, d'être stimulée. Et parfois retentissent des paroles de guérison, des paroles qui donnent la guérison. Je me souviens d'une parole que le Seigneur m'a donnée de prononcer en Uruguay. Je me dirige vers le pupitre. Nous étions dans un stade de basketball. Il y avait 4000 personnes rassemblées ce jour-là. Et alors que je commence à entrer dans ma prédication, tout à coup une parole vient. Et cette parole, c'est « Aveugle, ouvre tes yeux ». Alors je chasse cette idée-là, je dis « Arrête, commence pas à avoir des idées pareilles ». Et ça me déconcentre complètement, j'essaie de retrouver mon sujet. « Aveugle, ouvre tes yeux, aveugle, ouvre tes yeux ». Et je me faisais violence pour rester dans mon message et annoncer la parole. J'avais trop peur. Je lui dis « Mais si ça n'est pas une parole de Dieu, tu auras l'air de quoi? Tu vas faire Dieu menteur et tu seras couvert de ridicule ». Et je ramais dans ma prédication. Quand tout à coup, cette parole est devenue tellement, tellement pesante. J'ai dit, enfin voilà, aveugle, ouvre tes yeux. Et là, une femme a poussé un hurlement dans les tribunes. Et j'ai vu cette dame descendre les gradins, accompagnée par sa fille, arriver sur l'estrade. La femme tremblait. C'était comme si on l'avait branchée sur le courant électrique. Elle était secouée, ébranlée. Elle dit, je vois. Et cette femme venait d'être guérie de cécité, une parole de guérison. Que Dieu nous en donne, que Dieu nous en donne encore, sa maison doit être une maison de guérison. C'est aussi une maison de délivrance, sixième point, Luc 4, 16, dans la synagogue, il est venu pour libérer les esclaves. Oui, dans la synagogue, quand Jésus parle, quand il cite Ésaïe 61, il fait mention à la libération, à la délivrance. Tant de gens sont captifs, mes amis. Il m'a envoyé pour renvoyer libres les opprimés. Les captifs, littéralement les prisonniers de guerre. Il y a tellement de chaînes. Les chaînes démoniaques, mais aussi les chaînes chimiques. La cocaïne, le crack, l'ecstasy, l'héroïne, le GBL, le cristal, la ritaline, et puis d'autres addictions comme l'alcool, la drogue. Les gens ont besoin d'être délivrés de la cyberaddiction. On en a entendu parler ce matin. Le sexe, etc., le casino, les gens qui sont devenus des débiteurs compulsifs, qui sont liés par la loterie, les jeux d'argent, même la dépendance aux médicaments, des gens qui ont toujours peur d'être malades et il leur faut toujours des médicaments. Moindre douleur, moindre signe suspect, il faut un médicament. Et Jésus veut nous libérer de tout cela. Jésus veut nous rendre libres. Libération de l'occultisme, l'astrologie, les signes du zodiaque. Quand on est chrétien, on n'en a plus besoin. Hein ? Pas besoin de lire dans les étoiles. Notre destinée est gravée dans les mains de Jésus. À la sortie d'un supermarché, une dame s'approche de moi, elle me dit « Tendez-moi votre main, je vais vous dire votre avenir. » Je dis « Madame, mon avenir est gravé dans les mains de Jésus. » Comment cela ? Et j'ai pu lui annoncer l'évangile. C'est aussi une maison de consolation. Point numéro 7. Je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Oui, dans la maison de Dieu, ceux qui ont été brisés, qui ont été broyés, piétinés, eh bien, seul l'amour peut restaurer la dignité qui a été bafouée, qui a été méprisée. L'Éternel, nous dit la Bible, est la consolation de son peuple. Le Messie est la consolation d'Israël, et le Messie envoyait l'Esprit, Esprit consolateur. Amen. Et le temps avance, je terminerai par ce point. C'est aussi une maison de régénération. Une maison de régénération. Oui, Dieu a un plan. Dieu a un dessein. Dieu a un programme. Celui du diable, c'est la destruction. Il ne vient que pour voler, gorger, détruire. Mais Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Il veut nous restaurer. Dans cette œuvre pionnière, on parlait du ménage tout à l'heure. Et avec mon épouse, on faisait le ménage. Et je passais souvent l'aspirateur sur l'estrade. Je la préparais pour le dimanche matin. Et puis je passais l'aspirateur cet après-midi-là quand tout à coup je vois une dame qui rentre dans notre assemblée, dans ce local. C'était une ancienne usine textile qu'on avait rénovée. C'était comme un blocos. Il faisait un froid de canard. Il fallait une légion de radiateurs pour essayer d'avoir chaud. C'était vraiment très très froid. Mais la dame rentre et puis elle se dirige vers moi, puis je la regarde, je dis « Vous cherchez quelque chose, madame ?» Elle me dit « Je cherche un pasteur. » Je dis « Mais pourquoi ?» Elle me dit « Je suis perdu et j'ai besoin d'être sauvé. » Vous savez, on en demande comme ça tous les jours, non ? Alors je dis « Asseyez-vous, madame. » J'étais stupéfait. Je m'approche d'elle, elle s'assoit. Je dis « Voulez-vous répéter cette prière avec moi ?» Elle me dit « Oui, elle répète la prière. » Et le Saint-Esprit descend sur elle et la remplit. Ça a duré, chrono, 3 minutes. 3 minutes. C'était en 1992-93. Aujourd'hui, cette dame est toujours dans la foi. D'ailleurs, elle est secrétaire dans notre ministère à plein temps. Elle est salariée du ministère. Elle sert toujours le Seigneur. Mais je garderai toujours en souvenir le moment où cette femme a été visitée puissamment par le Saint-Esprit, régénérée, et elle est devenue une pierre vivante. 1 Pierre 2:1-6, nous avons un passage où il est une merveilleuse description de l'Église. Jésus est la pierre angulaire, et nous ne sommes ces pierres vivantes qu'il ajoute. Le Seigneur ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Et ma conclusion sera celle-ci, c'est aussi une maison d'adoration. C'est aussi une maison de vocation, parce que dans la maison de Dieu, Dieu appelle. C'est une maison d'effusion. Dans la maison de Dieu, l'Esprit descend et il baptise du Saint-Esprit. C'est une maison de proclamation. C'est une maison de proclamation. Doit résonner dans la maison de Dieu la vérité, l'Évangile. Pour clore, une simple citation de William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut. Le plus grand danger du XXe siècle sera une religion sans Saint-Esprit, des chrétiens sans Christ, le pardon sans repentance, le salut sans nouvelle naissance, la politique sans Dieu, le ciel sans enfer. Réfléchissons à ces choses et que cette maison que vous êtes, cette habitation de Dieu en esprit, soit vraiment cette maison où résonne la parole, l'amplificateur de Dieu dans la conscience des pécheurs. On termine par la prière. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour mes bien-aimés qui m'ont gentiment accueilli dans leur assemblée aujourd'hui. Merci pour mes frères et sœurs des différentes assemblées qui nous ont permis de partager le pupitre pour annoncer ta parole. Seigneur, tu bénis cette assemblée. Tu bénis chacun des membres ici. Je te prie que chacun ait sa part, que chacun ait cette portion de l'esprit que tu veux lui communiquer, cette plénitude. Seigneur, nous te louons pour ce que tu nous accordes, que tu puisses fortifier. Je prie en cet instant pour les malades afin que tu les guérisses. Tu les touches là où ils sont. Je te prie pour celui qui est addict, celui qui est tenu, afin qu'en ton nom, il soit délivré, Seigneur. Je te prie pour celui qui est venu et qui n'a pas encore fait la paix avec toi, qui ne s'est pas encore engagé dans les eaux du baptême, afin que ce matin, il comprenne que pour entrer dans la maison de Dieu, il faut véritablement se mettre à part. Il faut décider de consacrer sa vie, de l'abandonner à Jésus-Christ. Seigneur, je te prie aussi de remplir cette Église du Saint-Esprit, de lui accorder les dons spirituels, les dons les meilleurs, de baptiser dans le Saint-Esprit. Seigneur, d'accorder les ministères, de susciter, de faire naître, de faire émerger des ministères de la parole. Nous te prions pour qu'il y ait des diacres, pour qu'il y ait des anciens. Seigneur, que cette Église soit pourvue, qu'il ne lui manque aucun don, Seigneur. Merci de pourvoir et de distribuer à chacun comme tu veux, selon la volonté du Saint-Esprit. Bénis mon frère, le pasteur, son épouse, sa famille. Que ta grâce repose sur lui, Seigneur. Qu'il soit un instrument de croissance, non seulement dans cette ville, mais aussi dans toute cette région, comme nous l'avons entendu ce matin. Seigneur, ouvre les portes, fais tomber les murailles. Qu'il y ait de nouvelles percées, de nouvelles ouvertures, de nouvelles implantations d'églises. Seigneur, que des multitudes viennent à toi. Et nous continuons et nous te prions pour la France. Que tu visites notre pays, Seigneur. Que ce pays se courbe devant toi. Seigneur, que les politiciens viennent à toi, qu'ils prennent conscience du besoin de Jésus. Et nous te remettons cette Europe, Seigneur, qui s'éloigne tellement de toi. Te remettons ce continent, Seigneur, afin qu'il revienne à toi. Te prions pour une réévangélisation de l'Europe. Nous réclamons ce continent pour toi. Seigneur, nous supplions, parce que nous voyons l'Asie se tourner vers toi. Nous voyons l'Amérique centrale, l'Amérique latine se tourner vers toi. Nous voyons l'Afrique, Seigneur, qui connaît cette croissance exponentielle. Mais Seigneur, nous pleurons, et nous pleurons sur l'Europe, nous pleurons sur la France. Mais nous supplions parce que nous croyons, et tu l'as dit, qu'avant la fin, il y aura un mouvement mondial d'évangélisation. Et nous croyons qu'avant ton retour, la France et l'Europe seront réévangélisées au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen.
Voilà, frères et sœurs, avant de nous séparer, j'aimerais qu'on prie pour notre frère. C'est le minimum que de demander la grâce de Dieu sur ce ministère. Je vous demande à Monsieur Olé, s'il vous plaît, de bien vouloir venir avec les frères de Dieu et Janson, s'il vous plaît. Monsieur Blanc, vous êtes là également? Oui, Monsieur Blanc. Voilà, venez s'il vous plaît. On va tous ensemble se lever et on va demander à Jésus de bénir ce frère pour son travail.
Voilà. Asseyez-vous juste une seconde. Terminons ce culte. Nous allons terminer en rendant grâce à Dieu. Janson, s'il vous plaît, c'est là.
Voilà, on va terminer. Rappelez-vous cet après-midi, réunion, c'est pas de culte cet après-midi, c'est évangélisation. C'est notre frère, le pasteur Alexandre, qui apportera donc le message de la part du Seigneur. Et voilà, ceux qui sont à côté, n'oubliez pas de désister vite la salle pour qu'on puisse vous faire manger. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni.
Seigneur, nos mots sont trop faibles pour te dire merci. La reconnaissance et quitté du Seigneur. Merci car ta parole résonne puissamment, Seigneur, au milieu de ton peuple, pour nous encourager, Seigneur. Ô Seigneur, pour encore nous aider à lever les yeux et à l'élever vraiment sur la hauteur, la grandeur de ton œuvre, Seigneur. Qu'elle se fasse plus et mieux encore dans notre vie, au tréfonds de nous-mêmes. Seigneur, dans notre Église, dans notre ville, dans notre pays, dans notre continent. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, aide-nous, Seigneur, à nous remettre à genoux devant toi, à revoir avec toi, Seigneur, comment nous sommes entendus avec toi, notre pacte avec toi, Seigneur, ce que nous avons convenu avec toi pour être de nouveau vraiment, être remplis de toi, remplis de feu nouveau, d'une volonté nouvelle, Seigneur, d'une ferveur nouvelle, Seigneur, car l'œuvre de l'Éternel prospérera uniquement entre tes mains. Que ton nom soit béni. Amen. Alléluia.
Voici une parole pour toi, mon serviteur, ce matin. Je t'envoie, je t'ai choisi pour aller porter ma parole dans toute l'Europe. C'est pourquoi Dieu t'invite ce matin à ne pas craindre, mais aller avec la force qu'il va te donner, parce que tu réussiras dans toutes mes entreprises, dans tous les plans et les desseins que j'ai formés pour que mon œuvre se développe dans ce pays. Oui, va avec la force que je te donne. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je suis avec toi. Va et ne crains pas.
Amen. Mais blesse vraiment.
Alléluia. Levons-nous, frères et sœurs. Levons-nous juste et chantons. Alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 Amen, Alléluia, Alléluia. La paix du Seigneur soit sur nous et qu'il bénisse encore ce qui va se passer entre les deux réunions et dans la réunion de cet après-midi. Que le Seigneur nous bénisse.